Chapitre 2e. Le père de Charles des Lauriers, ancien capitaine de ligne, démissionnaire en 1818, était revenu se marier à Nogent, et avec l'argent de la dot, avait acheté une charge d'huissier, suffisante à peine pour le faire vivre. Aigri par de longues injustices, souffrant de ses vieilles blessures, et toujours regrettant l'empereur, il dégorgeait sur son entourage les colères qui l'étouffaient. Peu d'enfants furent plus battus que son fils. Le gamin ne cédait pas, malgré les coups. Sa mère, quand elle tâchait de s'interposer, était rudoyée comme lui. Enfin, le capitaine le plaça dans son étude, et tout le long du jour, il le tenait courbé sur son pupitre à copier des actes, ce qui lui rendit l'épaule droite visiblement plus forte que l'autre. En 1833, d'après l'invitation de Monsieur le Président, le capitaine vendit son étude. Sa femme mourut d'un cancer. Il alla vivre à Dijon. Ensuite, il s'établit marchand d'hommes à Troyes, et ayant obtenu pour Charles une demi-bourse, le mit au collège de Sens où Frédéric le reconnut. Mais l'un avait 12 ans, l'autre 15. D'ailleurs, 1000 différences de caractère et d'origine les séparaient. Frédéric possédait dans sa commode toutes sortes de provisions, des choses recherchées, un nécessaire de toilette par exemple. Il aimait à dormir tard le matin, à regarder les hirondelles, à lire des pièces de théâtre. Et regrettant les douceurs de la maison, il trouvait rude la vie de collège. Elle semblait bonne au fils de l'huissier. Il travaillait si bien qu'au bout de la seconde année, il passa dans la classe de 3e. Cependant, à cause de sa pauvreté ou de son humeur querelleuse, une sourde malveillance l'entourait. Mais un domestique, une fois l'ayant appelé enfant de gueux, en pleine cour des moyens, il lui sauta à la gorge et l'aurait tué, sans 3 maîtres d'études qui intervinrent. Frédéric, emporté d'admiration, le serra dans ses bras. À partir de ce jour, l'intimité fut complète. L'affection d'un grand, sans doute, flatta la vanité du petit, et l'autre accepta comme un bonheur ce dévouement qui s'offrait. Son père, pendant les vacances, le laissait au collège. Une traduction de Platon ouverte par hasard l'enthousiasma. Alors il s'éprit d'études métaphysiques, et ses progrès furent rapides, car il les abordait avec des forces jeunes et dans l'orgueil d'une intelligence qui s'affranchit. Geoffroy, Cousin, La Romiguière, Malebranche, les Écossais, tout ce que la bibliothèque contenait y passa. Il avait eu besoin d'envoler la clé pour se procurer des livres. Les distractions de Frédéric étaient moins sérieuses. Il dessina dans la rue des Trois Rois la généalogie du Christ, sculptée sur un poteau, puis le portail de la cathédrale. Après les drames Moyen-Âge, il entama les mémoires. Froissart, Comines, Pierre de l'Étoile, Brantôme. Les images que ces lectures amenaient à son esprit l'obsédaient si fort qu'il éprouvait le besoin de les reproduire. Il ambitionnait d'être un jour le Walter Scott de la France. Des Lauriers méditaient un vaste système de philosophie qui aurait les applications les plus lointaines. Il causait de tout cela pendant les récréations dans la cour, en face de l'inscription morale peinte sous l'horloge. Ils en chuchotaient dans la chapelle, à la barbe de Saint-Louis. Ils en rêvaient dans le dortoir d'où l'on domine un cimetière. Les jours de promenade, ils se rangeaient derrière les autres et ils parlaient interminablement. Ils parlaient de ce qu'ils feraient plus tard, quand ils seraient sortis du collège. D'abord, ils entreprendraient un grand voyage avec l'argent que Frédéric prélèverait sur sa fortune à sa majorité. Puis, ils reviendraient à Paris. Ils travailleraient ensemble, ne se quitteraient pas. Et comme délassement à leurs travaux, ils auraient des amours de princesses dans des boudoirs de satin ou de fulgurantes orgies avec des courtisanes illustres. Des doutes succédaient à leurs emportements d'espoir. Après des crises de gaieté verbeuse, ils tombaient dans des silences profonds. Les soirs d'été, quand ils avaient marché longtemps par les chemins pierreux au bord des vignes ou sur la grande route en pleine campagne et que les blés ondulaient au soleil, tandis que des senteurs d'angélique passaient dans l'air, une sorte d'étouffement les prenait. Ils s'étendaient sur le dos, étourdis, enivrés. Les autres, en manches de chemise, jouaient au bar ou faisaient partir des cerfs-volants. Le pion les appelait, on s'en revenait, en suivant les jardins que traversaient de petits ruisseaux, puis les boulevards ombragés par les vieux murs. Les rues désertes sonnaient sous leurs pas. La grille s'ouvrait, on remontait l'escalier, et ils étaient tristes comme après de grandes débauches. Monsieur le censeur prétendait qu'ils s'exaltaient mutuellement. Cependant, si Frédéric travailla dans les hautes classes, ce fut par les exhortations de son ami, et aux vacances de 1837, il l'emmena chez sa mère. Le jeune homme déplut à Madame Moreau. Il mangea extraordinairement. Il refusa d'assister le dimanche aux offices. Il tenait des discours républicains. Enfin, elle crut savoir qu'il avait conduit son fils dans des lieux déshonnêtes. On surveilla leurs relations. Ils ne s'en aimèrent que davantage, et les adieux furent pénibles quand Des Lauriers, l'année suivante, partit du collège pour étudier le droit à Paris. Frédéric comptait bien les rejoindre. Ils ne s'étaient pas vus depuis 2 ans, et leurs embrassades étant finies, ils allèrent sur les ponts afin de causer plus à l'aise. Le capitaine, qui tenait maintenant un billard à Villeneuve, s'était fâché rouge lorsque son fils avait réclamé ses comptes de tutelle, et même lui avait coupé les vivres tout net. Mais comme il voulait concourir plus tard pour une chaire de professeur à l'école et qu'il n'avait pas d'argent, Des Lauriers acceptait à 3 une place de maître clerc chez un avoué. À force de privation, il économiserait 4 000 francs. Et s'il ne devait rien toucher de la succession maternelle, il aurait toujours de quoi travailler librement pendant 3 années, en attendant une position. Il fallait donc abandonner leur vieux projet de vivre ensemble dans la capitale, pour le présent du moins. Frédéric baissa la tête. C'était le premier de ses rêves qui s'écroulait. « Console-toi, » dit le fils du capitaine. « La vie est longue, nous sommes jeunes. Je te rejoindrai, n'y pense plus. » Il le secouait par les mains, et pour le distraire, lui fit des questions sur son voyage. Frédéric n'eut pas grand-chose à narrer, mais au souvenir de Madame Arnoux, son chagrin s'évanouit. Il ne parla pas d'elle, retenu par une pudeur. Il s'étendit en revanche sur Arnoux, rapportant ses discours, ses manières, ses relations. Et Des Lauriers l'engagea fortement à cultiver cette connaissance. Frédéric, dans ces derniers temps, n'avait rien écrit. Ses opinions littéraires étaient changées. Il estimait par-dessus tout la passion. Werther, René, Franck, Lara, Lélia et d'autres plus médiocres l'enthousiasmaient presque également. Quelquefois, la musique lui semblait seule capable d'exprimer ses troubles intérieurs. Alors, il rêvait des symphonies, ou bien la surface des choses l'appréhendait, et il voulait peindre. Il avait composé des vers pourtant. Des Lauriers les trouva fort beaux, mais sans demander une autre pièce. Quant à lui, il ne donnait plus dans la métaphysique. L'économie sociale et la Révolution française le préoccupaient. C'était à présent un grand diable de 22 ans, maigre, avec une large bouche, l'air résolu. Il portait, ce soir-là, un mauvais paletot de lasting, et ses souliers étaient blancs de poussière, car il avait fait la route de Villeneuve à pied, exprès pour voir Frédéric. Isidore les aborda. Madame priait monsieur de revenir, et craignant qu'il n'eût froid, elle lui envoyait son manteau. « Reste donc, » dit Des Lauriers. Et ils continuèrent à se promener d'un bout à l'autre des deux ponts qui s'appuient sur l'île étroite formée par le canal et la rivière. Quand ils allaient du côté de Nogent, ils avaient en face un pâté de maisons s'inclinant quelque peu. À droite, l'église apparaissait derrière les moulins de bois dont les vannes étaient fermées, et à gauche, liés d'arbustes, le long de la rive, terminaient des jardins que l'on distinguait à peine. Mais du côté de Paris, la grande route descendait en ligne droite et des prairies se perdaient au loin dans les vapeurs de la nuit. Elle était silencieuse et d'une clarté blanchâtre. Des odeurs de feuillage humide montaient jusqu'à eux. La chute de la prise d'eau, 100 pas plus loin, murmurait, avec ce gros bruit doux que font les ondes dans les ténèbres. Des Lauriers s'arrêta et il dit « Ces bonnes gens qui dorment tranquilles, c'est drôle. Patience, un nouveau 89 se prépare. On est là de constitution, de charte, de subtilité, de mensonge. Ah, si j'avais un journal ou une tribune, comme je vous secourais tout cela. Mais pour entreprendre n'importe quoi, il faut de l'argent. Quelle malédiction que d'être le fils d'un cabaretier et de perdre sa jeunesse à la quête de son pain. Il baissa la tête, se mordit les lèvres, et il grelottait sous son vêtement mince. Frédéric lui jeta la moitié de son manteau sur les épaules. Ils s'en enveloppèrent tous deux, et se tenant par la taille, ils marchaient dessous, côte à côte. « Comment veux-tu que je vive là-bas sans toi ?» disait Frédéric. L'amertume de son ami avait ramené sa tristesse. « J'aurais fait quelque chose avec une femme qui m'eût aimé. Pourquoi ris-tu ? L'amour et la pâture est comme l'atmosphère du génie. Les émotions extraordinaires produisent les œuvres sublimes. Quant à chercher celle qu'il me faudrait, j'y renonce. D'ailleurs, si jamais je la trouve, elle me repoussera. Je suis de la race des déshérités, et je m'éteindrai avec un trésor qui était de strass ou de diamant. Je n'en sais rien. » L'ombre de quelqu'un s'allongea sur les pavés, en même temps qu'ils entendirent ces mots « Serviteurs, messieurs ». Celui qui les prononçait était un petit homme, habillé d'une ample redingote brune et coiffé d'une casquette laissant paraître sous la visière un nez pointu. « Monsieur Rock ?» dit Frédéric. « Lui-même, » reprit la voix. Le Nogentais justifia sa présence en comptant qu'il revenait d'inspecter ses pieds jaloux, dans son jardin au bord de l'eau. « Et vous voilà de retour dans nos pays ?» « Très bien. J'ai appris cela par ma fillette. La santé est toujours bonne, j'espère. Vous ne partez pas encore. » Et il s'en alla, rebuté sans doute par l'accueil de Frédéric. Madame Moreau, en effet, ne le fréquentait pas. Le père Roch vivait en concubinage avec sa bonne, et on le considérait fort peu, bien qu'il fût le croupier d'élection, le régisseur de M. d'Ambreuse. Le banquier qui demeure rue d'Anjou, reprit des lauriers. « Sais-tu ce que tu devrais faire, mon brave ?» Isidore les interrompit encore une fois. Il avait ordre de ramener Frédéric définitivement. Madame s'inquiétait de son absence. « Bien, bien, on y va, » dit des lauriers. « Il ne découchera pas. » Et le domestique étant parti. « Tu devrais prier ce vieux de t'introduire chez les D'Ambreuse. Rien n'est utile comme de fréquenter une maison riche. Puisque tu as un habit noir et des gants blancs, profites-en. Il faut que tu ailles dans ce monde-là. Tu m'y mèneras plus tard. Un homme à millions, pense donc. Arrange-toi pour lui plaire. Et sa femme aussi. Deviens son amant. » Frédéric se récriait. « Mais je te dis là des choses classiques. Il me semble. Rappelle-toi, Rastignac, dans la comédie humaine, tu réussiras, j'en suis sûr. » Frédéric avait tant de confiance en des lauriers qu'il se sentit ébranlé, et oubliant Madame Arnoux, ou la comprenant dans la prédiction faite sur l'autre, il ne put s'empêcher de sourire. Le clerc ajouta « Dernier conseil, passe tes examens. Un titre est toujours bon. » « Et lâche-moi franchement tes poètes catholiques et sataniques, aussi avancés en philosophie qu'on l'était au XIIe siècle. Ton désespoir est bête. De très grands particuliers ont eu des commencements plus difficiles, à commencer par Mirabeau. D'ailleurs, notre séparation ne sera pas si longue. Je ferai rendre gorge à mon filou de père. Il est temps que je m'en retourne. Adieu. As-tu 100 sous pour que je paye mon dîner ?» Frédéric lui donna 10 francs, le reste de la somme prise le matin à Isidore. Cependant, à 20 toises des ponts, sur la rive gauche, une lumière brillait dans la lucarne d'une maison basse. Des lauriers l'aperçut. Alors il dit emphatiquement, tout en retirant son chapeau, « Vénus, reine des cieux, serviteur. Mais la pénurie est la mère de la sagesse. Nous a-t-on assez calomnié pour ça, miséricorde ?» Cette allusion à une aventure commune les mit en joie. Ils riaient très haut dans les rues. Puis, ayant soldé sa dépense à l'auberge, des lauriers reconduisit Frédéric jusqu'au carrefour de l'Hôtel-Dieu, et après une longue étreinte, les deux amis se séparèrent.